Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. Nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne. Venez donc nous interpeller sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Aucun sujet n'est tabou, donc appelez-nous et RFI lancera le débat avec vous. Et ce sera un plaisir, évidemment, comme tous les matins, de vous entendre commenter l'actualité. Dans un instant, comme tous les matins, cette heure-ci, évidemment, vos questions à la rédaction. Mais d'abord, votre nouveau rendez-vous médias et citoyens, un rendez-vous pour entretenir le lien de confiance qui nous unit, vous auditeurs et nous médias, les médias régulièrement critiqués, on nous reproche parfois un manque d'indépendance, parfois un parti pris. Une grande consultation citoyenne a donc été lancée en France pour vous inviter à poser vos questions, à nous faire part de vos attentes, de vos préoccupations, car votre avis évidemment nous intéresse. Et depuis la semaine dernière et jusqu'au 20 janvier, eh bien, nous vous invitons à témoigner, à nous interroger sur un site très précis, le site mediaetcitoyens.com, et le médiateur de France Média Monde vous répond tous les vendredis dans Appel sur l'actualité. Bonjour Jean-Pierre Constantin.
Bonjour.
Médiateur donc de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia. Chaque semaine, nous choisissons une question, une remarque. Sur le site mediaetcitoyens.com, nous avons choisi une réaction, alors qui ne s'adresse pas exclusivement à RFI, mais à l'ensemble des médias français, une réaction du collectif NoFake Science. En français, ça donne collectif pas de fausse science, hein, pour traduire littéralement. C'est un collectif qui se présente comme un collectif de citoyens qui vise à promouvoir un traitement rigoureux de l'information scientifique dans les médias. Alors je cite cette réaction, des personnes sont présentées comme expertes par des journalistes ou ceux et celles qui les invitent à s'exprimer sur un sujet, dès lors qu'elles ont publié un livre, un rapport ou qu'elles dirigent une association. Cela est totalement illégitime lorsque ce statut ne découle pas d'une reconnaissance par les pairs, mais d'une autoproclamation ou d'une proclamation médiatique. Alors ce collectif propose comme piste de réflexion d'inscrire dans le code de déontologie du journalisme les caractéristiques qui sont retenues justement par le média en question pour qualifier un expert ou une experte. Quelle est votre réponse, Jean-Pierre ?
Alors, nous l'avons fait. La charte de déontologie de France Média Monde, donc de RFI, est très claire à ce sujet. Elle recommande à tous les journalistes de présenter les invités ou les personnes interviewées de la manière la plus complète et la plus rigoureuse possible. Voici ce que dit la charte, précisément. Veillez à la présentation précise des invités en plateau, titre, statut, engagement présent ou passé, c'est-à-dire que si le passé d'un invité est significatif pour l'information, c'est important de le dire pour éviter toute confusion. La présentation de la personne est considérée comme un véritable élément d'information et pas simplement une carte de visite. Pour ce qui est du choix des invités sur un sujet donné, notamment sur les sujets scientifiques, les journalistes se doivent de concilier deux impératifs contradictoires, à savoir la nécessité de ne pas faire de publicité à des charlatans, sans pour autant rejeter systématiquement toute voix discordante ou iconoclaste, au risque de s'enfermer dans une pensée unique. Ce n'est pas toujours facile de concilier ces deux impératifs, mais je crois que les journalistes, en particulier les journalistes de RFI, font de leur mieux et sont généralement de bonne foi.
Alors, il me semblait intéressant ce matin d'avoir avec nous Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Juan.
Depuis 10 ans, vous présentez C'est pas du vent, le magazine sur l'environnement, et vous êtes amené, évidemment, à inviter des scientifiques. Et cette question, j'imagine que vous vous la posez régulièrement sur la légitimité de vos interlocuteurs scientifiques.
Oui, alors comme le disait Jean-Pierre Constantin, je fais de mon mieux, mais je suis d'accord, en effet, c'est une question intéressante, et je suis d'accord avec le collectif sur le fait que les sujets scientifiques doivent être médiatisés avec des interlocuteurs qui sont légitimes, car la science, bien par définition, c'est le fruit d'un travail de recherche. Alors dans C'est pas du vent, quand il s'agit des faits, par exemple pour dresser un état des lieux de la biodiversité ou pour décrire les causes et les conséquences du dérèglement climatique, je donne toujours prioritairement la parole à des scientifiques qui ont publié des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, donc qui sont reconnus experts par leurs pairs, comme le mentionne le collectif. Je pense par exemple à Valérie Masson-Delmotte ou à Gilles Boeuf. Et d'ailleurs, je voudrais souligner que depuis quelques années, les scientifiques sont sortis de leur laboratoire. Ils se sont adaptés, pour la plupart d'entre eux, à l'exercice médiatique qui consiste à rendre un sujet compréhensible par tous. Je précise cela car il y a une dizaine d'années, c'était un vrai frein. En fait, ils étaient peu nombreux à accepter de venir s'exprimer dans les médias. Et cela, heureusement, a bien évolué.
Alors, Anne-Cécile, il y a les faits et puis il y a les opinions. Il y a des sujets comme l'utilisation des pesticides, les choix énergétiques, les impacts de la transition écologique sur la vie des citoyens. Ce sont des sujets qui font débat dans la société. Et là, vous faites aussi appel à des experts qui ne sont pas forcément des scientifiques.
Oui, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont une autre légitimité, on pourrait dire, que celle établie par la communauté scientifique. Je vous donne un exemple. Quand il s'agit de parler de la place des énergies renouvelables, par exemple, dans la transition énergétique, je peux inviter un maire, et le maire est légitime puisqu'il gère son territoire, un industriel qui fabrique des énergies renouvelables ou le porte-parole d'une association de citoyens qui sera pour ou contre les éoliennes. Pour la biodiversité, c'est pareil. L'expérience d'une ONG de terrain qui, par exemple, travaille sur les liens entre les mangroves et les pêcheurs, ou entre la forêt et les populations villageoises qui l'habitent. C'est un précieux témoignage, là aussi. Mais il faut bien sûr faire preuve de discernement. Et puis, il y a la parole des historiens, la parole des philosophes, des économistes, qui est aussi nécessaire pour éclairer les auditeurs sur ces débats de société. Mais je suis d'accord avec vous, pas n'importe lesquels, et surtout pas toujours les mêmes. Et il faut aussi respecter la parité homme-femme, quand c'est possible.
Évidemment. Jean-Pierre Constantin ?
Un dernier mot, ce que je peux dire, c'est que le journalisme scientifique, c'est avant tout du journalisme, ce n'est pas de la science, et ce ne sont pas les journalistes qui suscitent les polémiques en général, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui remettent en cause les principes, le consensus scientifique, et ce n'est pas aux journalistes de trancher ce genre de querelle.
Jean-Pierre Constantin, médiateur de France Média Monde, Anne-Cécile Bras, merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin. Où que vous soyez à travers le monde, vous souhaitez nous poser des questions sur les médias, eh bien n'hésitez pas, médias et citoyens au pluriel.com, et nous retrouverons le médiateur Jean-Pierre Constantin la semaine prochaine à cette heure-ci dans Appel sur l'actualité. À la semaine prochaine, Jean-Pierre.
Merci, au revoir.
Et merci encore à Anne-Cécile Bras. 9h18 à Paris, 33 9 693 693 70. Des questions pour mieux comprendre l'actualité. Olsen, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous nous appelez de Brazzaville et vous avez des questions concernant la Libye.
Exactement.
Allez-y, nous vous écoutons.
La France a annoncé cette semaine qu'elle renonce à la livraison de 6 navires aux gardes-côtes libyennes. Alors que ce don avait été annoncé en février dernier, comment expliquer cette décision aujourd'hui ? Est-elle due à la pression qu'ont mis plusieurs ONG afin d'annuler la livraison ?
Ah.
Et à quoi aurait-il servir ces embarcations ?
Oui, c'est vrai que ce don de 6 navires avait été annoncé en février dernier par Florence Parly, la ministre française des Armées, et finalement la livraison a été annulée. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, alors dites-nous pourquoi la France a-t-elle décidé de ne plus livrer ses embarcations rapides à la Libye ?
Alors officiellement, la France a donné très peu d'explications. D'ailleurs, ce revirement, on l'a appris via un mémoire envoyé par le ministère des Armées à la justice, mais il n'y a pas eu d'annonce à proprement parler. Vous vous souvenez sans doute qu'au printemps dernier, 8 ONG avaient attaqué l'État français, d'abord pour essayer de suspendre ces livraisons et tenter de les faire reconnaître illégales. Et donc, c'est dans le cadre de cette procédure que ce mémoire a été adressé à la justice. Dans la foulée, il y a une source au ministère des Armées qui a confirmé l'information en déclarant seulement « la situation en Libye ne permet pas de réaliser ce don d'embarcation, mais pas un mot de plus ». Et d'ailleurs, dans ce document, le ministère continue de dénoncer le bien fondé de l'action entamée par ces ONG contre elle, une position de Paris donc un peu ambiguë, puisque d'un côté, la France reconnaît que la situation en Libye ne se prête pas à ces livraisons, sans en dire plus, mais elle rejette les accusations portée contre elle, à savoir qu'en livrant ses bateaux, elle aurait violé ses engagements internationaux.
Ouais, et est-ce que c'est la pression finalement de cette procédure judiciaire qui a poussé la France à renoncer ? Est-ce que la France finalement risquait d'être condamnée ?
Alors, cette action en justice était assez incertaine, puisque la cour administrative qui avait été saisie du dossier s'était dans un premier temps déclarée incompétente, même si les ONG avaient fait appel. Donc, on peut penser que c'est plutôt la pression générale des ONG, de l'opinion, et puis peut-être aussi, Rouen, le contexte autour de ces questions de livraison sur des terrains de conflit. On se souvient qu'au printemps dernier, au même moment, une enquête des journalistes de Disclose avait révélé, par exemple, que des armes livrées par la France au Yémen avaient été utilisées dans le conflit dans ce pays, ce qui contredisait la version officielle, et ça a fait scandale. Alors, est-ce que ça a joué? Plusieurs observateurs le pensent, même si, il faut le dire, Paris rejette la pertinence du parallèle entre les deux situations.
Oui, Olsen nous demandait également à quoi auraient dû servir ces embarcations. C'était des embarcations rapides, c'est ça?
Voilà, des bateaux rapides et donc censés aider la marine libyenne à lutter contre l'immigration clandestine. Bon, concrètement, lui permettre d'être mieux équipé pour intercepter des bateaux de migrants en Méditerranée. Et c'est là tout le problème pour les ONG qui, depuis des années, dénoncent les conditions violentes dans lesquelles ont lieu ces interpellations, mais aussi le sort réservé ensuite à ces migrants, à savoir le plus souvent être envoyés dans des centres de rétention où, selon de nombreux témoignages, elles sont susceptibles d'être maltraités, torturés, violés et parfois même pire. Et donc pour ces ONG, en soutenant l'activité des gardes-côtes libyens, la France se serait rendue complice d'atteintes graves aux droits de l'homme.
Ouais, ces ONG, citons-les, notamment Amnesty International, Médecins Sans Frontières, la Ligue des Droits de l'Homme, des ONG qui ont également évoqué le risque que ces bateaux soient utilisés comme armes dans le conflit libyen.
Oui, parce que selon ces bateaux pourraient rentrent dans la catégorie du matériel militaire selon ces ONG. Alors la France s'en défend en quelque sorte car il était question que ces bateaux soient livrés désarmés, c'est-à-dire sans armes, mais même sans les supports qui permettent par exemple d'y installer des mitrailleuses. Mais pour ces ONG que vous avez citées, elles font valoir que ces bateaux, des bateaux de ce type ont déjà été utilisés par le passé dans ce conflit et qu'on ne pouvait pas exclure que les Libyens arrivent tout de même à les équiper et donc à s'en servir. Or, on sait que la Libye est frappée d'un embargo sur les armes depuis 2011.
Olsen, a-t-on répondu à vos questions ?
Très clair, Juan, merci.
Merci surtout à Florence Maurice du service Afrique de RFI. Bonne journée à tous les deux, 9h23. On continue évidemment avec vos questions. Marie Casadebé du service France de RFI nous rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour Juan.
Des questions sur l'enquête après la mort de Zineb Redouane. C'était il y a un an, cette femme de 80 ans tuée par une grenade lacrymogène à Marseille dans le sud de la France alors qu'elle était dans son appartement. Stanislas, bonjour. Stanislas, êtes-vous là? Je vous vois sur... Ah, on n'a plus. Ah, on a un petit problème, effectivement. Je ne vois plus aucun auditeur sur notre écran. Visiblement, le standard a buggé. Bon. Je me fais le porte-parole de Stanislas, le temps de le rappeler, bien évidemment. Stanislas, qui veut comprendre comment expliquer qu'un an après la mort de cette dame de 80 ans, les enquêteurs ne puissent pas identifier l'auteur du tir de grenade, malgré la présence de vidéos.
Oui, on rappelle déjà que cette femme, en fait, était en train de fermer les fenêtres de son appartement au quatrième étage d'un immeuble, alors que, au pied de l'immeuble, justement, les forces de l'ordre tentaient de disperser
les gilets jaunes.
Les gilets jaunes et puis une manifestation aussi contre l'habitat insalubre dans la cité phocéenne. Alors, effectivement, il y avait des vidéos donc, qui ont filmé ces scènes-là. Il faut savoir quand même, ce soir-là, près de 200 grenades lacrymogènes ont été tirées. 5 CRS ont été entendus par les enquêteurs, en l'occurrence l'IGPN, la police des polices. Leur supérieur hiérarchique a aussi été interrogé. Aucun n'a désigné le tireur susceptible d'avoir touché Mamazine, comme ses proches l'appelaient. Précisons que les CRS étaient casqués, donc difficilement identifiables. Mais pour la famille Redouane, l'un d'eux sait forcément qui est l'auteur du tir fatal. Difficulté supplémentaire, la caméra la mieux placée pour enregistrer la scène était hors d'usage ce jour-là. C'est ce qu'affirme en tout cas l'IGPN. La famille de la vieille dame n'y croit pas. Elle a d'ailleurs porté plainte contre l'inspection générale de la police nationale pour dissimulation de preuves. Une famille qui a le sentiment que tout est fait pour qu'on ne sache pas la vérité sur la mort de Zineb Redouane.
Oui. Alors justement, Stanislas nous disait également la mort de cette femme aurait été causée par les policiers selon une contre-autopsie réalisée en Algérie, alors que le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui contredit cette théorie. y a des contradictions. On voit bien que cette affaire est trouble. Il y a des versions contradictoires sur les causes de la mort de cette dame.
Le procureur de Marseille a estimé juste après la mort de la vieille dame, donc après autopsie, que l'octogénaire était morte des suites de son opération et non directement de l'impact de la grenade sur son visage. Mais la justice algérienne a mené une contre-expertise car la dépouille de Zineb Redouane a été rapatriée dans son pays d'origine, l'Algérie. Et là, des médecins légistes de l'hôpital d'Alger ont conclu que c'était bien le traumatisme crânien causé par le tir qui avait tué la vieille dame. Alors, lorsque Christophe Castaner, le ministre français de l'Intérieur, soutient que la police n'est pas à l'origine de la mort de la vieille dame, c'est qu'il s'appuie sur l'expertise française.
Oui, et l'enquête n'est pas terminée. Il pourrait y avoir d'autres rebondissements.
Tout à fait, parce qu'elle a été dépaysée récemment. Cela veut dire que l'enquête a été confiée à d'autres magistrats, les magistrats d'une autre ville, en l'occurrence Lyon. Ça s'est fait à la demande de la famille de Zineb Redouane qui réclamait davantage de sérénité. Le soir de la manifestation, un procureur adjoint était présent sur les lieux dans le cadre de sa fonction. C'est toujours le cas lorsqu'il y a une intervention des forces de l'ordre. Or, c'est ce même magistrat qui a été chargé de mener le début de l'enquête, omettant d'ailleurs de signaler qu'il était sur place. Il pouvait donc être soupçonné d'être jugé parti dans cette affaire. Une erreur qui jette un peu plus de trouble dans ce dossier.
On a retrouvé Stanislas, qui a pu, je l'espère, entendre toutes vos explications. Stanislas ?
Oui, Juan, j'ai bien entendu.
Vous avez bien entendu. Eh bien, tant mieux, on est ravis quand la technologie fonctionne. On remercie évidemment Marie Cazadebé du service France de Radio France Internationale. La dernière question de la semaine, elle nous vient de la région parisienne. Amadou, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous avez des questions sur la dernière acquisition de Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche au monde, le PDG du groupe français LVMH.
Oui, bien sûr. La semaine passée, le groupe LVMH a annoncé le rachat du groupe américain Tiffany. Alors moi, je voudrais savoir, Yohan, qu'est-ce qui a motivé le rachat de Tiffany par LVMH alors que sa rentabilité était en baisse ces dernières années?
Ah, vous suivez bien l'actualité. Patricia Lecomte, bonjour.
Bonjour Roy,
journaliste au service éco de RFI. C'est la plus grosse acquisition jamais réalisée par le groupe français LVMH. Bernard Arnault a tout de même mis sur la table près de 15 milliards d'euros pour reprendre le bijoutier américain Tiffany, alors que visiblement les performances de Tiffany sont en berne.
Eh bien, écoutez, il faut quand même se rappeler que Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH, c'est d'abord un empire. Hein. N'oublions pas que cette année, il a été consacré deuxième fortune du monde.
Ah, deuxième, j'ai dit première tout à l'heure.
Deuxième, derrière Jeff Bezos, patron d'Amazon, et puis ensuite devant Bill Gates, le patron de Microsoft. Le milliardaire français pèse 91 700 millions d'euros. Donc, l'homme d'affaires peut voir grand. Tiffany vient rallonger la liste des marques prestigieuses que le groupe LVMH possède déjà, comme Louis Vuitton, Christian Dior, Céline, les champagnes Moët et Chandon, le vignoble du fameux Cheval Blanc, le cognac Hennessy, au rayon joaillerie Bulgari, Chaumette, Fred, ou encore pour l'horloge Tag Heuer, mais aussi les parfums Givenchy, Guerlain, enfin bref. Juan, je vais m'arrêter là, car la liste est encore très longue.
Mais pourquoi maintenant Tiffany ?
Eh bien, écoutez, Tiffany, c'est le bijoutier mythique new-yorkain, le joyau américain fondé en 1837, réputé pour ses bijoux et surtout ses diamants. La maison est associée pour toujours à deux stars américaines, Marilyn Monroe et Audrey Hepburn. Alors, une fois la transaction réalisée, Bernard Arnault a annoncé le rachat du joaillier américain. Par ces mots, une icône de l'Amérique qui devient française. Il a quand même dû débourser, comme vous l'avez dit, 14 700 millions d'euros. Et c'est effectivement la plus grosse acquisition du groupe LVMH.
Amadou, une autre question ?
Oui, en fait, LVMH possède déjà Bulgari et Chaumette. Alors moi, je voudrais savoir quelles conséquences ira ça va-t-il avoir sur les bijoux de haut de gamme, en fait.
Patricia Lecomte.
Eh bien, écoutez, il faut croire que le jeu en vaut la chandelle. Hein. Tiffany va permettre au géant du luxe français de développer ses activités aux États-Unis, qui est son second marché, mais également de devenir un acteur important dans la bijouterie haut de gamme, qui représente actuellement 9% de ses activités, mais qui est le seul secteur où il n'est pas encore leader. Avec l'acquisition de la marque, LVMH s'offre un réseau de 320 boutiques dans le monde. Ce rachat va également permettre à LVMH de rattraper Richemont et Kering, son rival et propriétaire de Cartier et Van Cleef et Arpels, qui réalise, lui, plus de 7 milliards d'euros dans ce secteur, soit 51% de son chiffre d'affaires. Avec le rachat de Tiffany, LVMH devrait multiplier par deux le poids de son activité horlogerie-joaillerie, dont le chiffre d'affaires a atteint l'an dernier un peu plus de 4 milliards d'euros, dont 60% par les bijoux. Et puis, enfin, avec leur achat par LVMH, Tiffany va tenter de dépoussiérer son image. La marque américaine peine à attirer une clientèle jeune. Dans ce sens, elle a frappé à la bonne porte, car c'est un exercice dans lequel Bernard Arnault excelle. Pour preuve, LVMH, qui a racheté Bulgarie en 2011, a vu 7 ans plus tard ses bénéfices multipliés par 5.
Quel parcours ! Merci beaucoup Patricia Lecomte-Amadou. Bonne journée à Paris.